Bienvenue sur Creative Disturbance. Je m'appelle Yvan Tina. Je suis docteur en art du spectacle et en technologie à l'université du Texas à Dallas. Et aujourd'hui, je suis avec Gisèle Malina qui va se présenter.
Je suis Gisèle Maïna, je suis en ma troisième année en école de médecine à l'Université de Loyola à Chicago. Je suis ici pour parler de ma carrière en médecine, mais aussi dans le design et aussi de mes voyages en Haïti, en Afrique et mon travail là-bas.
Ok. En fait, on réalise ce podcast suite au podcast qu'on vient d'enregistrer en anglais, où tu as pu parler de la conférence que tu as faite dans un séminaire qu'on a ici dans le laboratoire Sciences à ATEC, où tu as fait une présentation en fait sur ce qu'on appelle, qu'on traduirait en français par reconnaissance des formes, pattern recognition. J'ai été regarder sur Google comment ça se traduit. Et donc, tu as parlé de ton expérience donc dans le champ médical et des voyages que tu as fait qui t'ont amené en fait là où tu es en ce moment, mais qui n'ont aucun lien en apparence entre eux. Donc, est-ce que tu peux juste brièvement décrire ton background et ces voyages-là?
Oui,
Après, on va en
surtout.
discuter.
Ouais, parce que c'est aussi comment les connexions entre
Ouais.
tout ce que j'ai dans mon passé qui fait mon histoire que je vois maintenant. Donc oui, j'ai grandi dans une famille art science avec mon père Roger Malina qui est un des professeurs ici. Et j'ai grandi en France, mais bon, je suis venue aux États-Unis il y a 7 ans, donc mon français est un peu est un peu rouillé, on va dire. Et après, j'ai fait une petite. À l'université, j'ai fait une carrière en design, ou le human-centered design, ça s'appelle en anglais, mais avec un. Et j'ai travaillé là-dedans pendant 4 ans à l'université, après un an après ça. Et suite à ça, j'ai fait un peu de voyage, j'ai habité en Colombie pendant 6 mois pour apprendre l'espagnol. J'ai fait professeur d'anglais là-bas et maintenant je suis en école de médecine. Et pendant tout ça, j'ai aussi fait des voyages au Kenya où j'ai travaillé dans un orphelinat. J'ai voyagé en Haïti où j'ai fait des travails là-bas dans des cliniques pour aider des gens
Personne
là-bas,
amputée.
des amputés, ouais, voilà. Et après, j'ai travaillé il y a 2 ans dans un camp de réfugiés en Grèce avec des réfugiés de Syrie. Et donc, j'ai beaucoup d'expériences un peu différentes, mais pour moi, ils sont tous connectés. Et je vois tout ça de la même, c'est toute une même histoire. Et je travaille maintenant en école de médecine d'une manière qui est seulement possible parce que j'ai ce background en design. Et j'ai ce background de voir autre culture, autre langue et d'autres endroits, en fait. Voilà.
Et en fait, juste pour ceux qui veulent écouter le podcast, ils pourront toujours se référer au lien vers le podcast en anglais, mais pour faire court, le nœud de la discussion, après ta conférence l'autre jour, après dans le séminaire, a tourné autour de l'opposition binaire entre local et global. La plupart des questions qui t'ont été posées, y compris par moi, portaient sur une sorte de contradiction qu'on pourrait trouver entre des entreprises de très court terme qui se passent sur des périodes de quelques semaines ou quelques mois, mais dans des conditions spécifiques d'urgence, de catastrophes naturelles et tout ça, avec des problèmes de fond qui ont besoin d'être traités sur un plus long terme, des problèmes de famine, de pauvreté et tout ça. Et donc les questions qui t'ont été posées étaient comment est-ce que tu arrives à articuler ou à manager tout ça, qu'est-ce que tu priorises, comme on dit, enfin, quelles sont tes priorités quand tu t'investis dans un projet? Comment est-ce que tu l'approches?
Ouais, donc c'est exactement ça que je suis souvent posé cette question de pourquoi je vais en Haïti et après au Kenya ou dans des endroits différents. Pourquoi j'y vais pendant quelques mois et je vais pas rester là-bas pendant des années où je pourrais avoir un impact qui est qui va durer plus longtemps pour l'instant, par exemple. Et donc, c'est une bonne question et je crois que chaque individu qui travaille dans, dans la médecine dans les autres pays comme ça, il faut qu'il se demande pourquoi je choisis d'être ici pour 3 mois ou 6 mois ou pour 20 ans. Il faut avoir, ça doit être raisonné. Et je crois que c'est toujours bien de questionner pourquoi je fais ce que je fais. Donc pour moi, je crois que la réponse à cette question a changé. Qu'avant, je crois que je n'avais pas vraiment une bonne réponse pour cette question. Mais maintenant, je commence à voir que c'est pour moi, je regarde pour un projet si j'ai une connexion entre ce qui m'intéresse, où j'ai intéressé à voir d'autres cultures, d'autres langues, j'ai un intérêt pour tout ce qui est un peu chaotique, je trouve que j'ai aussi une habilité de travailler dans ces instances et que j'ai un skill set, je ne sais pas vraiment comment dire ça en français, mais
un ensemble de compétences.
Oui, voilà, un ensemble de compétences qui sont bien pour le short term, pour des pays pour 2 ou 3 mois, quand c'est vraiment chaotique, où il n'y a pas vraiment de réponse. Donc moi, je pensais par exemple à les réfugiés de Syrie, où il y a une grande population qui sont en transit. Et dans ces instants, ils ont besoin de monde pour aider. Ce n'est pas nécessairement pendant 20 ans. Le problème, ça ne va pas durer 20 ans. Et donc, c'est pour un temps limité. Mais je sais que aussi mes compétences sont pour la durée courte. Je sais que moi, je suis pas un bon manager de personnes pour que quelque chose dure pour 20 ans. C'est pas mon skill set. Mais je sais que pour une courte durée, c'est là où j'ai les bonnes compétences et donc c'est là où je vais pour mes projets.
Ouais, non, tu as mentionné l'autre jour le fait que tu aimes travailler dans des situations d'urgence, comme dans des hôpitaux où il y a les urgences, justement, aux hôpitaux. Tu aimes bien ce genre de situation un peu chaotique où il faut répondre, il faut être réactif, quoi. Mais je crois que ma question, là, je peux plus élaborer parce que je suis plus à l'aise en français. ma question, tu as répondu, mais je pense qu'elle avait un fond politique aussi. Et en fait, je me demande maintenant que tu le redis, dans quelle mesure est-ce que tu penses que tu es, pas toi-même, parfois prise dans des logiques de pouvoir qui te dépassent, pas toi seulement en tant qu'individu, mais c'est-à-dire que on est très bons, nous, les pays occidentaux, pour soi-disant apporter de l'aide aux pays sous-développés lorsqu'il y a par exemple des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre en Haïti, mais on sait très bien qu'il y a des problèmes de fond qui doivent être réglés depuis des décennies, qui ne sont jamais adressés. Et donc là, pour moi, en fait, c'était aussi sur cet enjeu-là dont je parlais, c'est-à-dire on réagit et on pense global pour des situations d'urgence, mais il y a des situations vraiment d'urgence qui sont là depuis des années, qu'on ne traite jamais et qu'on fait mine d'ignorer.
Je suis d'accord, je crois que c'est une bonne question, parce que si ces moments d'urgence ne sont pas disconnectés à l'histoire de ce pays. Donc, par exemple, je crois que j'ai parlé de ça avant, mais en Haïti, il y avait, après le tremblement de terre, il y a beaucoup de pays qui ont donné du riz à Haïti pour aider la famine qui s'est passée directement après le tremblement de terre. Mais dans le long terme, ça causait des immenses problèmes à Haïti parce que les locaux qui pouvaient plus vendre leur riz, en fait. Parce qu'on peut, c'est gratuit. Donc c'est pas déconnecté. Tout est bien connecté entre le direct et le court terme dans ces pays. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment penser à ça quand je vais dans un autre pays pour travailler, surtout quand je connais pas cette histoire. J'ai pas vécu dans ces pays, je connais pas les problèmes et tout ce qui est politique, le système politique dans ces pays. Il faut aussi dire que pour moi, s'il y avait avec les tremblements de terre qui arrivent aux États-Unis ou les problèmes ici, j'irais aussi à ces endroits. Donc, c'est pas spécifique pour moi qu'il y a d'autres langues ou que ça soit dans des pays non occidentaux, quoi. Mais c'est vrai que dans le passé, j'ai fait ça parce qu'il y avait plus d'opportunités pour moi d'y aller. Et je trouve qu'aussi, j'ai les compétences de traduire entre le français ou l'anglais, ou de traduire
L'espagnol.
entre d'autres, voilà, l'espagnol aussi et d'autres langues. Donc je vois que je peux être utile dans ces moments-là, plus que je pourrais être utile en Amérique où il y a plein de gens qui parlent anglais et il n'y a pas de problème de traduction. Y a pas de... Donc. Déjà, il y a un peu de ça pour moi où je vais, où je crois que je peux être utile. Mais l'autre problème, c'est que je peux faire des choses en erreur. C'est possible que je ne serai pas utile, que je causerai plus de problèmes en y étant que de ne pas y
Que tu
aller dans le...
puisses pas être part du faire partie du problème quand même.
Exactement, ou que je pourrais créer des problèmes plus tard que je ne peux pas voir. Donc, la première chose que je fais quand j'arrive dans un autre pays ou pour un de ces projets, c'est je me demande si la raison que je suis là est vraiment un problème. Est-ce que je peux vraiment aider ou est-ce que ceux qui habitent déjà, ils n'ont pas besoin de
Demande.
moi? Donc, déjà, il faut toujours questionner les assumptions,
Préconçus, les préjugés.
exactement, les préjugés. Je crois que ça, c'est super important parce que je crois que les problèmes qu'on voit avec les gens comme moi qui vont dans notre pays pour aider dans des circonstances d'urgence, c'est qu'on ne se demande pas assez si on a vraiment la bonne idée, si on va vraiment aider d'un moyen qui va pas causer de problème plus tard. Donc toujours, toujours, je demande à ceux qui sont locaux, ceux qui travaillent, qui ont habité dans cet endroit, qu'est-ce qu'ils pensent, eux, est vraiment le problème? Qu'est-ce qu'ils ont besoin avec quoi? Parce que si j'arrive pour aider dans des circonstances médicales et ils me disent non, non, on a plein de médecins, mais il faut qu'on a quelqu'un qui doit bouger toutes ces boîtes et on n'a personne pour bouger toutes les boîtes. Ben moi, je bougerai les boîtes. Moi, je suis là pour aider comme je peux. Où ils disent qu'il y a des problèmes. Donc, je crois qu'il faut toujours être ouvert à trouver que on n'avait pas la bonne idée en entrant dans ces pays et que il faut vraiment écouter ceux qui habitent là-bas. Et ça, ça a à faire avec le processus du design aussi, hein. Donc, il faut toujours vraiment se demander si on a le problème qui est correct. C'est vraiment ça le problème, et si la solution est correcte. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un danger de causer plus de problèmes, il faut être vraiment faire attention à tout ça. L'autre chose, c'est que vraiment je vais où je crois que je peux être utile, où je crois que mes compétences sont bien centrées au problème. Ça peut être aux États-Unis, où je parle anglais, ça peut être en France, mais il faut qu'il y ait l'opportunité pour que j'aide, que j'ai les compétences nécessaires et que aussi j'ai le temps pour le faire.
Non, c'est vrai qu'on est allé un peu vite, mais on n'est pas revenu sur ton expérience dans Design for America, où tu as passé presque 4 ans en fait au final, à travailler sur des problématiques de design, comment est-ce qu'on trouve une solution adaptée à certains problèmes, quoi.
Voilà,
Et
donc
puis il fait le lien aussi avec tes études en médecine maintenant, où
oui,
tu...
voilà. Donc je pense à presque tous mes problèmes et tout ce que je travaille du jour en jour avec cette idée de design et de vérifier que je regarde tous ces problèmes d'une façon systématique pour minimiser ces erreurs qui peuvent causer des problèmes.
Ça fait, on va bientôt arriver à 15 minutes de podcast, donc il faut que je conclue. Je vais peut-être juste conclure de la même façon, parce qu'on a toujours un intérêt pour la question artistique. Art ou design? Je disais en français, il n'y a pas la même chose en anglais, mais en français, art et design, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai l'impression qu'en anglais, on dit beaucoup designer pour dire artiste.
Oui, je crois que c'est vrai. En anglais, des fois, on mélange un peu les deux. Parce que le design, je crois que design, ça dépend comment on l'utilise. Pour moi, le design, c'est une façon de penser. C'est une façon de voir le monde et de réfléchir à les problèmes qui sont partout et de penser à des solutions. C'est une façon seulement de voir le monde. Alors que l'art, je trouve que c'est une expression. Des réactions que j'ai à ce monde. L'art, pour moi, c'est une réaction, c'est une expression d'émotions qui peuvent se trouver dans le design. Le design peut utiliser l'art comme un type d'outil ou une façon d'expression, mais le design, c'est une façon de réfléchir et de penser, et l'art, c'est une façon d'expression. Et je trouve qu'en médecine, je fais les deux tout le temps, et que je ne pourrais pas être faire de la médecine sans cette façon de voir le monde où je crois que tout peut être amélioré, qu'il y a des solutions de partout, et qu'il faut voir le monde d'une façon systématique. Et je ne pourrais pas vivre en école de médecine non plus sans avoir un moyen d'expression pour toutes les émotions qui m'entourent, avec des patients qui vivent des temps assez durs. Et je crois que l'art permet de traduire cette émotion dans quelque chose de beau.
Ok, merci beaucoup.
Ouais, pas de problème.